Chapitre 10 Jéhu. Jéhu envoie un message à Samarie, dont les chefs, les anciens et les grands, avaient la garde des 70 fils d'Akab. Maintenant, dit-il, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre seigneur, et que vous avez les chars et les chevaux, et une ville forte et des armes, regardez lequel des fils de votre seigneur est le meilleur et le plus apte, et mettez-le sur le trône de son père, et combattez pour la maison de votre Seigneur. Versets 2 et 3. Cette lettre, sous sa forme généreuse, respire la menace d'un homme sûr de lui-même, ou tout au moins voulant le paraître. À mesure qu'on avance dans ce récit, on découvre plusieurs traits du caractère de cet homme remarquable selon les pensées du monde. Impétuosité, promptitude de décision, coup d'œil politique, connaissance et mépris des hommes, habileté à profiter des occasions ou à en faire naître, à s'imposer aux autres ou à s'en servir pour ses desseins, absence absolue de scrupules quand il s'agit de triompher des obstacles, et tout cela s'appuyant sur la conscience d'être un instrument de l'Éternel dans son œuvre de destruction. Les principaux de Samarie prennent peur et se montrent prêts à une trahison et à un meurtre que Dieu ne leur avait pas ordonné. Ils obéissent à Jéhu quand il leur dit « Si vous êtes à moi et si vous écoutez ma voix, prenez les têtes des hommes, fils de votre Seigneur, et venez vers moi demain à cette heure-ci à Jisréel. » Verset 6. Toujours la même pensée que précédemment. Qui est pour moi? Qui est à moi? Jéhu obtient ainsi l'avantage de faire accomplir ce massacre par d'autres dont l'acte le justifie vis-à-vis des habitants de Jisréel. Vous êtes juste. Voici, j'ai conspiré contre mon Seigneur et je l'ai tué, mais qui a frappé tout ceci? Verset 9. Il proclame orgueilleusement sa conspiration et son attentat, mais il a pour complice tous les grands et les capitaines d'Israël, qu'à force de hardiesse et d'arrogance, il a contraint à le servir. C'est lui qui, par son habileté, met de son côté tous les conducteurs de ce peuple. Puis il ajoute « Sachez donc que rien ne tombera en terre de la parole de l'Éternel que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. Et l'Éternel a fait ce qu'il avait dit par son serviteur Élie. » Verset 10. Il invoque l'infaillibilité de la parole de Dieu pour justifier sa conduite, puis il frappe tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Jisréel, et tous ses grands, et tous ceux qui étaient de sa connaissance, et ses sacrificateurs, jusqu'à ne pas lui laisser un réchappé. Verset 11. Ce n'était pas proprement ce que l'Éternel avait dit. 1 Roi 21, versets 21 à 26. Jéhu outrepassait ses ordres et sa mission, mais il était dans l'intérêt de sa domination que toute sympathie pour Akab disparut d'Israël. Lorsque la parole nous dépeint de tel caractère, souvenons-nous que Dieu est loin de nous exprimer toujours son approbation ou sa désapprobation des instruments qui servent à ses desseins. Il nous dira en quoi Jéhu s'est bien acquitté de sa tâche et n'ira pas plus loin, laissant l'appréciation de sa conduite à notre jugement spirituel, afin que nous en tirions de l'instruction pour nous-mêmes. Que le lecteur se rappelle l'histoire des juges et la manière dont les actes des libérateurs d'Israël nous y sont racontés. On pourrait multiplier les exemples en prenant l'histoire de Jacob et de tant d'autres. Que Dieu emploie un Jéhu ou un Samson pour accomplir ses jugements ne signifie nullement qu'il y ait chez ces hommes une foi vivante ou que l'état de leur cœur ait son approbation. Samson et Barak sont nommés en Hébreux 11 parce qu'il ne s'agit pas dans ce chapitre de la foi en elle-même, mais de son activité, ce qui est autre chose. Leur conduite, je le répète, se discerne spirituellement, et voilà pourquoi le monde ne comprend rien à ces exemples donnés par la parole. En d'autres cas, surtout lorsqu'il s'agit du roi, Dieu nous donne d'habitude son sentiment. Il juge en lui l'état de choses dont il est le représentant responsable, et si Dieu ne le faisait pas, la justice de ses jugements pourrait être mise en question, étant toujours laissée à notre appréciation faillible. Cette remarque trouve une application toute particulière dans le cas de Jéhu, qui est à la fois l'instrument de la colère de Dieu contre la maison d'Akab et celui auquel la royauté est confiée. Il reçoit d'un côté le témoignage de l'approbation de l'Éternel pour avoir exécuté ce qui était droit à ses yeux, chapitre 10, verset 30, et cela sans aucune restriction quant à son caractère moral. De l'autre, au verset suivant, verset 31, sa conduite comme roi est sévèrement blâmée de l'Éternel. Quant au massacre de Jisréel, nous trouvons en Osée 1, verset 4, ce que Dieu en pense et quelle en est la conséquence. Encore un peu de temps, et je visiterai le sang de Jisréel sur la maison de Jéhu, et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël, et il arrivera en ce jour-là que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. » Les frères d'Akasia, roi de Juda, versets 12 à 14, subissent le même sort que lui près de la cabane des bergers. En comparant 2 rois 9, versets 27 à 29, et 2 chroniques 22, versets 7 à 9, nous apprenons qu'avant d'être frappé près de Megiddo, Akasia s'était réfugié à Samarie et n'avait pas encore été arraché de sa retraite quand ses frères vinrent pour visiter les fils de Joram. Ce ne fut qu'après l'extermination de ses frères qu'Akasia fut amené à Jéhu et subit cette ruine de la part de Dieu à la montée de Gur, mais pour aller mourir à Megiddo, puis être transporté et enseveli à Jérusalem. Si l'acte de Jéhu n'avait pas été ordonné de l'Éternel, il n'en est pas moins vrai que Dieu l'avait décrété. Ce passage nous offre une sérieuse leçon. S'allier, comme Akasia, à un monde sur lequel la colère divine est suspendue, c'est s'exposer à la ruine subite qui l'atteindra. Mais ceux qui, sans égard à la sainteté de Dieu, vont, ne fût-ce que resserrer les liens d'amitié avec ce monde, subissent un sort semblable. Les frères d'Akasia en portent la funeste conséquence. Il ne peut, il ne doit y avoir, pour ceux que Dieu appelle à conduire son peuple, aucune communion quelconque avec ce qu'il réprouve. Nous trouvons par contre un exemple frappant de la séparation du mal chez Jonadab, fils de Rechab, Jérémie 35, qui vient à la rencontre de Jéhu, verset 15. Jonadab était de la race des Kéniens, entré avec Israël en Canaan. Il s'était divisé en plusieurs branches, la moindre dans l'extrême nord à Kedesh de Nephtali, Juges 4, verset 11, la plus forte au désert de Juda, qui est au midi d'Arad, Juges 1, verset 16. Une troisième enfin subdivisée en plusieurs familles, dans les environs de Jabetz, qui appartenait à Juda, 1 Chronique 2, verset 55. Nous ne savons ce qui amenait Jonadab du royaume de Juda dans celui d'Israël. Faisait-il partie de la suite des frères d'Akasia, ce que donnerait à penser la demande abrupte de Jéhu? Quoi qu'il en soit, il n'avait aucun lien avec tout le mal qui l'environnait. Ses principes étaient ceux d'une séparation absolue pour Dieu, d'un véritable Nazaréa, et ne pouvant les inculquer au milieu corrompu qui l'entourait, il les avait du moins enseignés à sa famille et à sa maison. Le cercle de son témoignage était restreint, en présence de l'infidélité envahissant, comme une marée montante les deux maisons d'Israël, mais ce n'était pas moins un témoignage, et Dieu l'approuvait. Nous connaissons ces détails, d'après le chapitre 35 de Jérémie. Les principes de Jonadab étaient ceux de tout vrai Nazaréen. Premièrement, s'abstenir de vin, qui représente les convoitises enivrantes du monde. Deuxièmement, ne pas bâtir de maison, c'est-à-dire ne pas s'établir ici-bas d'une manière permanente. Troisièmement, ne pas semer de semences, comme si l'on devait attendre, ne fût-ce qu'une année de récolte. Quatrièmement, ne pas planter de vignes, c'est-à-dire ne pas cultiver ce qui mènerait tôt ou tard à l'abandon du Nazaréa, et combien de croyants l'ont perdu pour n'avoir pas veillé sur ce point. Cinquièmement, habiter sous des tentes, en vrai fils d'Abraham, comme pèlerin et voyageur dans le pays de la promesse. Jonadab comprenait que cette terre donnée au peuple de Dieu n'était nullement sa possession actuelle, tant que subsistait la ruine morale du peuple et les bouleversements matériels qui en étaient la conséquence. Sa foi attendait encore un repos pour le peuple de Dieu, lui et ses fils le témoignaient par leur attitude. Il ne nous est pas dit à quelle occasion Jonadab avait enseigné ces règles aux siens, mais comme la seule et unique mention historique qui soit faite de lui se trouve dans notre chapitre, nous pouvons en inférer que la vue du mal et de la ruine générale après les règnes glorieux de David et de Salomon lui avait fait sentir la nécessité d'une marche très étroite et le retour aux choses du commencement enseigné par les patriarches en contraste avec le relâchement qui l'entourait. Puissions-nous être aussi, dans ces temps de la fin, de vrais enfants de Jonadab, fils de Rechab, non pas, comme cela est si d'usage aujourd'hui, par des pratiques extérieures qui laissent le cœur éloigné de Dieu et par lesquelles Satan trompe les âmes, mais par la conduite morale que ces pratiques symbolisaient sous l'économie de la loi. Jéhu salue Jonadab et lui dit « Ton cœur est-il droit, comme mon cœur l'est à l'égard de ton cœur ?» Jonadab peut répondre « Il l'est ». Mais il y a ici une différence. Son cœur était droit à l'égard de l'Éternel. Ses principes viennent de nous l'apprendre. Celui de Jéhu était droit à l'égard de Jonadab, auquel il confie ses desseins, mais aurait-on pu dire qu'il était droit à l'égard de Dieu? La suite nous le montrera. « Viens avec moi, dit Jéhu, et vois mon zèle pour l'Éternel. » Verset 16. Et cependant, combien ce zèle était partagé. S'il est entier, le serviteur de Dieu n'en parle guère, mais est plutôt disposé à s'écrier « Je suis un serviteur inutile ». Qu'il y eut du zèle chez Jéhu, il n'en faut pas douter. Mais dans quelle proportion était-il pour l'Éternel? Saul de Tarse était un ardent zélateur des traditions de ses pères. Quant au zèle, il persécutait l'Église en croyant servir Dieu. Paul disait des Juifs, ses frères selon la chair, qu'ils avaient du zèle pour Dieu, mais non pas selon la connaissance. Il y avait certes plus de zèle véritable, plus de connaissance, plus de puissance dans la sainte séparation de Jonadab que dans la marche impétueuse de Jéhu. Le verset 31 nous renseigne sur la valeur et la mesure du zèle de ce dernier. Après avoir frappé tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, jusqu'à ce qu'il l'eût détruit, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite à Élie, verset 17, Jéhu s'en prend aux prêtres de Baal. Nous voyons encore là une prudence humaine, ne laissant rien à l'imprévu, jointe à une ruse qui n'est du reste pas le trait dominant de ce caractère. Verset 19. En tout cas, ce n'est pas la marche simple et courageuse de la foi selon la vérité. Combien l'attitude de Jéhu diffère de celle d'Élie se tenant seul, dans une confiance inébranlable en l'Éternel, vis-à-vis de la puissance ennemie du roi, de tous les prêtres de Baal et d'un peuple hésitant entre les deux côtés. Seul, pour tenir tête à tous, parce que le Dieu auquel il se confiait était avec lui. Pas une ruse dans la scène du torrent de Kizon. L'autorité seule de la parole du prophète suffit pour détruire tous les prêtres du faux Dieu. Ce n'est pas que Jéhu n'apprécia pas la parole de Dieu prononcée par Élie, mais il s'en tenait là. Or, les paroles du prophète qui le concernaient, il n'avait pas une connaissance réelle des pensées de Dieu. Il ne cite que Élie. Chapitre 9, versets 25 et 36, chapitre 10, verset 17. Il ne connaît que les jugements de Dieu. Il ne mentionne pas même Élisée, dont il a pu suivre la carrière dès le commencement. La grâce n'a pas de prise sur son cœur. Rien n'est plus dangereux qu'une connaissance partielle des principes divins. Elle mènera toujours à de fausses applications de ces principes et à une mauvaise marche. Jéhu croyait avoir tout accompli par son œuvre d'extermination et ne comprenait pas que tout le zèle imaginable ne valait pas un seul acte d'obéissance qui l'eût séparé de la religion de Jéroboam, fils de Nébat, par laquelle il fit pécher Israël. Lors de l'extermination des prêtres de Baal, de leur temple et de leur idole, où Jéhu distribua les rôles à ses capitaines et à ses serviteurs avec tant d'esprit stratégique, versets 18 à 27, la manière d'agir de Jonadab, fils de Rékab, fait ressortir le caractère de cet homme de Dieu. Jéhu lui a confié son plan, il accompagne Jéhu, mais ne paraît, verset 23, que pour constater qu'aucun serviteur de l'Éternel ne se trouve confondu avec les serviteurs de Baal. N'est-ce pas un beau rôle, semblable à celui de Jérémie? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie 15, verset 19. Jonadab était comme la bouche de Dieu en séparant d'abord sa propre maison, puis tous les vrais serviteurs de l'Éternel, de la masse corrompue et idolâtre. Aujourd'hui comme alors, le travail qui sépare du monde et réunit ensemble les enfants de Dieu, car ces deux fonctions n'en font qu'une, a toute l'approbation du Seigneur, quoi que puisse dire le monde ou même les chrétiens qui désirent conserver des relations avec le monde. C'est aussi là que se trouve la puissance. Jérémie 15, verset 20. Élie possédait l'Esprit de Dieu, qui opérait en lui une complète séparation du mal, et dont la puissance animait le prophète d'un saint zèle pour l'Éternel. Jéhu a le zèle sans l'Esprit, un zèle employant des moyens humains pour répondre aux ordres de Dieu. Aussi, qu'arrive-t-il? Si en apparence le résultat, l'extermination des prêtres de Baal, est le même du côté d'Élie et du côté de Jéhu, il est tout autre en réalité. Élie, tout en étant discipliné, continue son chemin dans la puissance de l'Esprit, semblable, au bout de sa carrière, à ce Christ qu'en type il représente, et il la termine glorieusement enlevée au ciel par les chars et la cavalerie d'Israël. Jéhu, fougueux exécuteur du jugement sur d'autres, ne l'exerce en aucune manière sur lui-même et ne se détourne pas du mal et de l'idolâtrie pour servir Dieu seul. Les veaux de Jéroboam, religion nationale consacrée par l'usage, ne le scandalisent pas, car, à coup sûr, sa politique et les intérêts humains de son règne s'en accommodent parfaitement. Malgré cela, quelle appréciation équitable de la part de Dieu! Il tient compte à Jéhu du fait qu'il a exécuté ce qui était droit à ses yeux, en jugeant la maison d'Akab, et lui donne, en raison de cela, une postérité sur le trône jusqu'à la quatrième génération. D'autre part, quelle justice et quelle sainteté parfaite en Dieu! Il emploie Hazaël, sa verge, pour frapper Jéhu. En ces jours-là, l'Éternel commença à entamer Israël, et Hazaël les frappa dans toutes les frontières d'Israël, depuis le Jourdain, vers le soleil levant, tout le pays de Galaad, les Gadites et les Rubénites et les Manassites, depuis Aroer, qui est sur le torrent de l'Arnon, et Galaad et Bazan. Versets 32 à 33. Du vivant de Jéhu, son royaume est entamé de tous côtés, et surtout dans le domaine des tribus au-delà du Jourdain. Ses malheurs sont le jugement de Dieu sur sa conduite. Ici, Dieu exprime son mécontentement, non par des paroles, mais par des actes qui ne semblent pas avoir atteint la conscience du roi. Les chroniques des rois d'Israël, verset 34, contiennent, si elles se retrouvent jamais, les actes de toute la puissance de Jéhu, mais non pas ce qu'il était devant Dieu, ni le jugement de Dieu sur sa conduite comme roi. Joacaz, son fils, règne à sa place.